France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nadia Boulanger, compositrice, chef d'orchestre et surtout professeure de composition de grand renom, a toujours fréquenté celles et ceux qui étaient à la pointe de la musique dite classique ou savante. Stravinsky, Debussy, Ravel eurent des influences immenses sur elle et ses élèves. Elle n'ignore pas les grands compositeurs modernes, même à la fin de sa vie, au moment de l'enregistrement de cette émission, en 1976. Elle cite notamment l'œuvre du compositeur grec Yannis Xenakis, dont la musique dite stochastique, complexe et opaque pour l'oreille néophyte, est aux antipodes de la musique populaire. Pourtant, elle ne fait preuve d'aucun élitisme. Allant à l'encontre des stéréotypes, elle reconnaît volontiers qu'il y a d'excellentes chansons populaires, merveilleusement écrites. Elle n'opère pas de distinguo entre la musique savante et celle écoutée par tous. Il y a simplement de la bonne musique, qu'elle a la chance de savoir et de pouvoir apprécier. C'est donc avant tout l'ouverture d'esprit de Nadia Boulanger que l'on découvre dans ce 10e entretien au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 11 août 1978.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres, Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, « Elle est la musique en personne. » Saint John Perse.
J'enseigne depuis 1904, alors c'est un temps tellement long que ça m'a donné l'occasion de voir passer beaucoup de phases de la civilisation, beaucoup d'atmosphères d'une sorte et d'une autre. Alors je peux, moi, me souvenir de gens dont des jeunes hommes comme vous connaissent le nom historiquement. Mais si je vous parle de Weingartner, de Nikisch, de tous ces grands, grandissimes, Même Toscanini est déjà un peu loin pour vous.
Si un jour, il venait à l'idée de quelqu'un de faire une liste des gens qui sont passés ici pour travailler avec vous, ce serait plus facile de faire une liste des gens qui ne sont pas venus.
On en connaît beaucoup.
J'aurais voulu que vous puissiez dire quelques mots sur un certain nombre des compositeurs actuels.
Alors là, il y a des choses que je ne sais pas où on les joue. Moi, je ne sors plus, pour ainsi dire. Et alors, je ne suis pas au courant.
Oui, mais enfin, ceci dit, j'ai vu, par exemple, sur votre programme de Fontainebleau, qu'il y avait une œuvre de Xenakis qui était analysée.
Oui, mais ça, naturellement.
Bon, donc je pense
mais ça,
que...
c'est pas une découverte.
Non, mais je veux dire que c'est un compositeur qui est en pleine activité maintenant et que vous n'ignorez pas son œuvre.
Écoutez, ce serait malheureux. Mais si je vous citais tous les compositeurs que j'aime, ou que j'aime moins d'ailleurs, mais que je respecte, et j'aime beaucoup, je suis très intéressé par l'œuvre importante de beaucoup de compositeurs, mais vous ne croyez pas que je vais vous donner là des diplômes à monsieur un tel numéro 1, monsieur un tel numéro 2. Je ne me permettrai pas de le faire parce que je ne me sens pas qualité pour le faire. Je me tiens au courant.
Il y a eu toujours, à chacune des époques, que ce soit aujourd'hui ou dans l'avant-guerre ou dans la période du début du siècle, il y a eu toujours des personnalités plus marquantes que d'autres.
Je crois qu'il s'agit beaucoup plus, ou d'œuvres en particulier, ou d'époques. Alors il y a une époque, il y a l'époque de gens autour de Debussy. Ils sont tous influencés par Debussy, sans les empêcher d'être eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui ont voulu continuer à faire PDAS, qui ont continué à faire des accords parallèles, ou bien ceux qui ont continué à faire des accords répétés du sacre du pinceau. Ben, ça, ils courent derrière la voiture. Ben, moi, j'aime bien dans la voiture, si on peut. Et c'est l'intérêt qu'on témoigne au temps qu'on vit qui détermine ça. Ou vous vous intéressez, même si vous n'aimez pas. Beaucoup de choses ne me plaisent pas aujourd'hui, ça va sans dire. Ça n'est même pas intéressant de noter. Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est pas en nous opposant à ce qui nous déplaît que nous faisons valoir ce à quoi nous croyons.
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi des rapprochements qui sont assez étranges? Quand on imagine que quelqu'un comme Saint-Saëns, que vous avez sans doute connu,
oui, très bien,
qui écrivait encore de la musique après la Première Guerre mondiale, alors que Webern avait déjà fait une grande partie de son œuvre.
Oui, mais écoutez, ça nous est, à vrai dire, tout à fait égal. Il s'agit qu'une œuvre a été écrite très tard ou très tôt, elle est ou portant les prémices d'un temps à venir, ou portant les restes d'un temps déjà passé. Bach écrivait en un style qui n'était plus celle de son époque. Bah, tout de même, on aimerait bien être Jean-Sébastien Bach.
Mais enfin, est-ce qu'on peut dire de la même chose de Saint-Saëns? Est-ce que le fait de...
Oh, ben, je ne peux pas comprendre, c'est pas juste. C'est pas juste. C'est écrasé Saint-Saëns qui ne nous a rien fait.
Non, mais si on parle d'un problème de langage.
Oh, mais quand même, il n'y a pas de correspondance possible.
Vous avez vous-même d'ailleurs souvent joué la symphonie pour orgue ou...
Ah, mais je n'ai rien pour jouer, rien contre jouer la symphonie pour orgue. Ben non, enfin c'est autre chose. Nous ne pouvons pas parler sur le même plan de Bach et de Saint-Saëns, ça va pas.
Certainement pas, mais c'est vous-même.
Seulement Saint-Saëns est un très bon musicien qui connaissait son affaire admirablement bien. Et puis il lui manquait ce que personne n'a pu lui donner, ça c'est autre chose.
Et c'était quoi ça?
Ah ben vous n'avez pas besoin de mettre les points comme ça sur la ligne des pavés. Nous l'avons déjà à moitié écrabouillé. N'insistons pas.
Thank you.
à la fin de la guerre, le général Pershing a envoyé M. Walter Damrosch, le grand chef d'orchestre, à Paris pour s'enquérir de l'état des musiques américaines dans l'armée. Et d'une part, Damrosch a organisé un concert dans lequel était incluse la symphonie de Saint-Saëns. Il m'avait demandé de tenir la partie d'orgue. De là, s'est fondée une amitié très profonde. Damrosch avait fondé les tout premiers concerts pour enfants. Il avait fondé chose sur chose, événement sur événement, concert sur concert, inventant toujours quelque chose de nouveau. Et un jour, il me dit, « Qu'est-ce que vous faites cet été ?» Ben, je dis, comme d'habitude, je vais chez nous, à la campagne. « Oh, je regrette beaucoup, mais pas cet été. » Je dis, « Comment pas cet été ?» Mais j'irai là comme nous y allons tous les ans. Je regrette beaucoup. Vous serez à Fontainebleau. Et je me voilà arrivé à Fontainebleau pour donner des cours en anglais, ne sachant positivement que bonjour, au revoir. Enfin, ils ne comprenant pas un mot de ce que me disaient les élèves. C'est là qu'était Copland. Il était le premier élève américain avec Melville Smith. Le général Pershing, sachant qu'on pourrait développer et améliorer le niveau des musiques américaines dans l'armée, a demandé à Damrosch de fonder une école. Et à Chaumont, sous la direction de Francis Casatu, a été fondé un conservatoire dirigé aussi moralement par le sous-préfet qui s'appelait alors M. Fragneau. Attention, ces entrefaites, la guerre a pris fin. M. Fragneau a été nommé préfet à Melun. Et Damrosch a dit, on ne peut pas laisser tomber une chose comme celle-là. Nous ouvrons une école. Quelle école? Où? Quoi? Comment? L'école a été fondée avec un patronage américain et un certain patronage français, en tout cas. Me voilà embarqué.
Je comprends bien l'idée qui était à la base de la fondation du conservatoire américain de Fontainebleau. Après la Première Guerre mondiale, les troupes américaines étaient là et c'était donc l'entretien de la musique des troupes américaines. Mais après le retrait des troupes américaines, quelle était...
Je considère que l'école de Fontainebleau, qui est un grand privilège pour nous, mais est quelque chose de très important pour les Américains. Pourquoi? Parce que ils font des études brillantes, ils ont des gens très doués, mais les bases ne sont pas assurées parce que dans beaucoup de cas, leur oreille n'est pas développée. Le côté petite cuisine journalière est passé outre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas fatiguer les enfants. Et moi, je crois que les enfants qu'on a fatigués intelligemment gagnent 10 ans sur leurs études. Alors, en principe, nous avons des classes supérieures, c'est magnifique. La vérité, que la classe de solfège fait découvrir qu'être un bon musicien, c'est d'être un bon grammairien. Le solfège est une manière, voir, écouter, entendre. Parce que je peux écouter et ne rien entendre. Je peux voir et ne rien regarder. Je peux regarder et ne rien voir. Et je peux surtout agir et ne pas aimer ce que je fais. À ce moment-là, c'est condamné.
Vous leur enseignez une morale artistique?
C'est un bien grand mot. Damrosch m'invite à venir jouer à New York de l'orgue. Et que j'ai ici à Boston.
Je me dis, c'est bête d'avoir une occasion comme celle-là pour un jeune homme de se faire entendre. Et comprendre d'être mon élève à ce moment-là. Je dis, si vous pouvez être prêt pour le 1er septembre et qu'il vous intéresse d'écrire un morceau pour orgue et orchestre, je puis vous assurer une exécution à New York et à Boston. Je dis, c'est pas possible. Il est absolument inconnu. C'est pas possible. Je dis, écoutez, seulement le 1er septembre, pas le 2, le 1er septembre. J'avais demandé auparavant à Damoche et à Kusiewiczki s'ils étaient d'accord. Le 1er septembre, j'ai eu la partition finie, copiée, tout en ordre. Nous arrivons à New York. Je n'ai jamais su quel avait été le mobile exact de Damoche, mais quand ça a été fini, j'aime énormément cette petite symphonie pour orgue et orchestre, probablement que Damroche a été effrayé du modernisme de cette œuvre. Je ne sais pas quel sentiment, mais il s'est tourné vers le public et il a dit, « Eh bien, mesdames, messieurs, si un homme de 23 ans peut écrire une œuvre comme celle-là, il peut avant 30 ans avoir assassiné ses parents. » En riant, moitié vrai. Alors, réaction, naturellement, fait grande agitation. La réputation de Copland était faite.
Thank you.
Je crois qu'il y a quand même des choses curieuses qui se passent. Si nous prenons par exemple la musique américaine, je pense en fait à vos élèves qui sont Copland, Sessions ou Piston ou des gens comme ça. Jamais on n'en joue quoi que ce soit sur le continent européen. Je pense qu'il y a là un malentendu entre les continents ou les modes ou les époques.
Oui, mais d'abord, vous oubliez qu'il y a, disons, 50 ans, pour aller vite, on ne connaissait pas une musique américaine, c'est un mot qu'on n'employait pas. Alors, le changement immense qui s'est fait, aujourd'hui, M. Copland vient diriger à Londres, à Rome, à Paris. Il y a donc un changement, M. Bernstein vient la semaine prochaine, il y a donc un changement immense. Le terme musicien américain n'est pas quelque chose d'insolite, tandis que c'était quelque chose d'inconnu, et d'inconnu pour des raisons très précises, c'est qu'il y avait des musiciens étrangers installés en Amérique, mais de vrais musiciens de formation réellement musicale autochtone n'existaient pas. L'amalgame qui s'est fait en Amérique a paru d'abord se faire par la musique pop, qui s'est faite par une importation d'hommes de couleur, qui ont un talent particulier pour la musique, mais qui, à vrai dire, n'étaient pas plus américains que je ne le suis. Et petit à petit, on crée une notion toute nouvelle de l'emploi de moyens anciens. Alors, c'est très embarrassant à décrire, parce que l'Amérique est arrivée, et je n'ai pas qualité pour essayer de le décrire, est arrivée à, d'une part, une civilisation extrêmement actuelle, allant très de l'avant, et sans racines. Il a fallu créer à la fois le résultat et la racine. Ils y ont, je crois, réussi aujourd'hui dans une très large mesure.
Mais vous pensez que le jazz, ou en tout cas la musique des Noirs américains, a été très important comme héritage musical ?
A été certainement très important.
Alors comment est-ce que des musiciens comme tous ceux qui sont venus ici vous voir ont pu intégrer ça à leur propre création, de manière individuelle, je veux dire ? Et non pas...
Mais c'est-à-dire qu'ils sont faits de ça. Vous, aujourd'hui, vous savez qu'un musicien est américain. Vous l'entendez.
Il n'y a pas une bourgade du continent américain qui n'est pas un
élève. Il y a eu beaucoup d'élèves américains, en effet.
Ils ont donc forcément subi votre influence ou l'influence de
non,
Paris.
Non, ça, écoutez, moi, j'espère pas mon influence. Mon influence dans l'ordre, dans la nécessité d'avoir une rigueur, d'avoir un ordre. Mais dans le style, en tout cas, si je l'ai exercé, c'est à mon insu et contre mon gré.
Vous parliez tout à l'heure de musique pop. Est-ce que vous voyez que le phénomène d'une musique de ce type est quelque chose d'important pour la compréhension musicale qu'en peuvent avoir les gens?
Ah, je ne crois pas. Je crois que ça prouve un amour pour la musique, un amour pour un tour d'esprit que les uns ont, que les autres n'en ont pas. Ce que je ne comprends pas, alors c'est à vous que je pose la question, c'est pourquoi entre un chef-d'œuvre de pureté de Mozart et un morceau réussi de pop musique, il y a une différence. Alors je crois que c'est dans l'esprit, mais je ne suis pas trop sûr.
Un morceau réussi de pop musique, vous pensez qu'il peut en exister?
Ah, mais il en existe. Il y a de ces chansons qu'on chante qui sont admirablement chantées, admirablement orchestrées, très bien. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? L'autre jour, on a chanté une chanson très bien, avec beaucoup de valeur. Est-ce que c'était dans le même domaine qu'un air de Mozart ou de Bach? Alors est-ce que l'homme Mozart, l'homme Bach a un ordre de pensée qui l'entraîne dans une autre sphère de l'activité émotionnelle, de l'activité sensorielle, de l'activité technique? Je ne sais pas. Je crois que c'est un autre esprit. Je n'en trouve pas une explication qui me satisfasse logiquement. Mais tout ce qui dépasse le niveau journalier de la vie me paraît du même domaine. Ça, c'est aussi mystérieux que le petit Schubert écrivant des chefs-d'œuvre immortels à 17 ans.
Oh,
son seul bonheur a été d'être Schubert et d'écrire.
Et qu'est-ce qui se serait passé si Schubert avait pu entendre Carmen?
Mais vous ne savez pas, peut-être qu'il aurait été enchanté. Je n'ai pas l'esprit fait de telle manière que je peux m'imaginer Schubert à la première de Carmen ou à la première d'un ballet de Bernstein. Ça, je n'ai pas ce pouvoir.
To keep clean.
Skyscrapers bloom in America. Cadillacs zoom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
Thank you.
C'était le 10e entretien avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 11 août 1978.